Africa.
Ambiance.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Le lundi matin, nous sommes avec les entrepreneurs de Black Pyramide, entrepreneurs emmenés par Sekou Sissoko qui nous rejoint. Alors là, je t'ai dit, lundi, c'est la journée internationale des droits des femmes. Il va falloir venir avec une entrepreneur plus, qui est aussi engagée, qui est dans le social. Et voilà, elle est là.
Oui, carrément.
Bonjour Aïssa,
déjà. Bonjour, ça va très très bien. Une bonne semaine qui commence. Hein. Il fait beau, il y a du soleil, c'est la journée internationale des droits des femmes.
Donc... Qu'est-ce que ça t'évoque justement cette journée,
c'est
quoi ?
Bah écoute, les femmes, c'est, pour l'homme, c'est tout. Donc pour moi déjà, tous les jours, toutes les journées sont les journées des femmes. Mais une journée dédiée vraiment aux droits des femmes, je pense qu'elle était utile et elle est très très importante. Donc ça m'évoque le droit des femmes et l'évolution des femmes à travers le temps.
Et du coup, ces femmes que tu rencontres dans le cadre de Black Pyramide Entrepreneur, ces femmes qui entreprennent, elles sont quand même impressionnantes. Hein.
Carrément. La semaine dernière, on a eu Jennifer Nzola, qui a failli me faire pleurer. Et là, nous avons Ali Diatou également, qui vous racontera son histoire, mais qui est une femme super impactante, qui fait d'énormes choses dans l'aspect entrepreneurial comme dans l'aspect associatif, etc. Donc c'est tout un honneur pour moi aujourd'hui.
Allons-y donc à la découverte de l'histoire d'Ali Diatou Camara. Elle est multi-entrepreneur, elle est la fondatrice de Nemalia. Elle est engagée à travers différentes associations et combats en faveur des droits des femmes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, Ali Diatou Camara. Alors avant de parler de cette aventure entrepreneuriale et de vos engagements, qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette journée des droits des femmes, 8 mars, Ali Diatou?
Alors en fait, bonjour déjà, merci, c'est vraiment un honneur pour moi de participer à cette émission. Cette journée, elle est vraiment symbolique, importante. Encore une fois, et j'aime bien dire que la femme, c'est le noyau de l'humanité. Et la femme, elle a plusieurs casquettes. Elle est vraiment, multicasquette. Aujourd'hui, c'est vraiment, comme j'ai dit, symbolique. Et on représente en tout cas, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'entrepreneur, on a vraiment un rôle à jouer. On a le pouvoir de faire changer toute une société. Donc pour moi, c'est vraiment une journée où on doit se féliciter, on doit s'encourager et on doit avancer main dans la main.
Alors, toutes ces valeurs et ces engagements qui vous représentent c'est cette marque, hein, Nemalia, que vous avez créée en octobre 2016. Vous êtes une passionnée de mode depuis votre tendre enfance. C'est une marque de vêtements qui valorise le basin, ce tissu riche, hein, qui est très porté à l'occasion de grandes fêtes en Afrique de l'Ouest. Alors, racontez-nous un peu l'aventure de Nemalia. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la mode et pourquoi valoriser le basin? Quel est votre rapport à ce tissu?
Alors en fait, j'ai commencé en 2000. Nemalia existe depuis 2016, ouais. Mais c'est vrai que depuis toute petite, je suis vraiment une passionnée de mode. J'aime bien raconter cette anecdote. Je regardais très souvent les défilés de mode en cachette parce que chez moi là, il fallait pas regarder ça. Ouais. Je regardais les défilés de mode en cachette tellement que j'aimais beaucoup la mode. Et de fil en aiguille, ma passion a augmenté. Et j'ai voulu faire un BEP mode. Mais pour mon père, c'était juste impossible. Je ne pouvais même pas lui annoncer que je voulais faire un BEP mode. Donc, finalement, j'ai fait un BEP à secrétariat. Mais franchement, c'était vraiment... Je n'ai pas du tout aimé. Et comme on dit, le destin finit toujours par nous rattraper. En fait, quand on aime quelque chose, quand on est passionné, en fait, ça finit toujours par nous rattraper. Et de fil en aiguille, par rapport à mon parcours, moi-même, en tant... Étant une femme voilée, je trouvais pas en fait des tenues quand j'allais en fait à les événements, les mariages, les baptêmes, je trouvais pas de tenues adaptées à mes exigences. Donc au fur et à mesure, j'ai créé moi-même en fait ma collection qui répond à mes exigences et le basin ça me représente en fait parce que c'est un tissu noble, c'est un tissu de prestige, un tissu de caractère. Et c'est moi, en fait. C'est moi, c'est vraiment moi.
Alors, en fait, ça veut dire que c'est un tissu qu'on peut porter au quotidien, le basin ?
Non. C'est beaucoup pour les mariages, les baptêmes. Justement, moi, j'appelle les femmes cabacotesques. Parce que, en fait, justement, chaque femme, elle a... elle a, en fait, quand on porte le bazin, il y a le comportement qui va avec, en fait. Il y a le comportement, il y a la, comme j'ai dit, il y a la prestance, il y a le respect. Donc voilà, c'est vraiment lors des événements, en fait, qu'on porte ce tissu.
Et au fur et à mesure de vos expériences, de vos recherches, vous êtes rendu compte d'une réalité, celle des femmes qui travaillent ces bazins, qui effectuent les teintures sur ces bazins, parce que ce sont des tissus qui sont teints, en fait. Alors parlez-nous un petit peu de cela, à partir de quel moment vous êtes rendu compte de la dangerosité des teintures utilisées pour le bazin, et dites-nous ensuite après ce que vous avez entrepris pour essayer de changer les choses.
Alors justement, dans le cadre de mon activité Némalia, c'était vraiment pour alimenter mes réseaux sociaux. J'ai voulu montrer en fait l'envers du décor, montrer comment se passe la teinture, etc. Et là, ça a vraiment été un choc parce que moi-même en tant que...
Au Mali, c'est ça.
Moi-même en tant qu'entrepreneur, je ne savais pas que mes collaboratrices, les teinturières, utilisaient des colorants chimiques pour faire la teinture du bazin.
Et alors qu'à la base, c'était pas... C'est... En fait, au niveau traditionnel et ancestral, ce sont des teintures naturelles qu'on utilisait, et au fur et à mesure du temps, ça a changé.
Tout à fait, tout à fait. Ça a changé... Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide de faire de la teinture chimique. Et aussi le côté brillance, en fait. Le côté brillance, aujourd'hui, voilà, en Afrique de l'Est, on aime beaucoup porter les bazins qui brillent. Voilà, on aime en tout cas le matu-vu. Et comme je disais, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai fait un constat. Ouais. Mes collaboratrices, les teintures, utilisent des colorants chimiques, en fait, pour faire la teinture du bazin. Et il y a un impact sur leur santé, mais aussi sur l'environnement. Ces femmes, elles souffrent de maladies cardiaques, dermatologiques, respiratoires. Et comme je disais, il y a un impact aussi sur l'environnement parce qu'il n'y a pas de structure adaptée au Mali pour faire le recyclage des eaux. Donc très souvent, elles le font en face de chez elles, voilà, où des fois, elles vont verser l'eau dans le fleuve. Donc voilà, là, il y a un impact aussi sur l'eau.
D'accord. Ok. Alors, est-ce que ces femmes sont conscientes de la nocivité des produits qu'elles utilisent ?
Oui, parce qu'elles le vivent tous les jours, finalement. C'est elles voient l'impact sur leur santé. Et moi, j'ai échangé avec ces femmes et justement, je leur ai posé exactement la même question. Je leur ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'impact qu'il y a sur votre santé et sur l'environnement ? Elles m'ont dit oui, mais que faire en fait ? Que faire ? Parce que en fait, c'est une chaîne économique énorme. Ouais. Ces femmes, elles font vivre toute une famille. Donc en fait, c'est ça. La question, c'est aujourd'hui, si on leur enlève ça, qu'est-ce qu'on leur propose à la place ? Donc c'est pour ça qu'en fait, dans le cadre de mes recherches, moi en tout cas, j'ai été vraiment très sensible à cette cause, et je me suis dit qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose. Soit ben, on continue comme ça et personne ne fait rien, ou soit ben, on sensibilise et on trouve une solution alternative à ces colorants chimiques en passant par des colorants plus responsables.
Et ces femmes sont prêtes à vous suivre ? Quelles sont leurs réactions lorsque vous venez et vous leur dites va falloir que ça change, on va essayer de trouver des solutions plus adaptées ?
Alors en fait, au début, elles n'avaient pas compris mon message. Au début, elles pensaient que j'étais contre elles. Parce que c'est vrai que, voilà, très souvent, voilà, moi je suis la parisienne qui vient, ouais, qui veut tout chambouler comme ça, là. Donc en fait, au début, ça a été très difficile. Elles pensaient que vraiment j'étais contre elles, mais je leur ai expliqué. Au fur et à mesure qu'on échangeait, elles ont compris qu'en fait, ce n'était pas contre elles, mais c'était vraiment pour elles, pour préserver leur santé et pour préserver l'environnement.
Alors justement, vous avez mis en place une solution alternative. Le projet se nomme Bazin Vert, vous nous en parlez ?
Oui, alors le projet justement s'appelle Bazin Vert, c'est vraiment de faire de la sensibilisation. Donc on a mis en place, déjà on a fait pas mal de choses concernant le projet Bazin Vert, c'est vraiment de sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui justement, même moi, mes clientes ne savaient pas, finalement on se rend compte que beaucoup portent le bazin, mais personne ne sait.
Voilà. Je ne savais pas du tout.
Exactement. On ne sait pas en faire l'envers du décor. Donc à travers ce projet Bazin Vert, c'est vraiment de faire de la sensibilisation, et c'est vraiment pas contre les femmes teinturières, mais avec elles, comment on peut trouver une solution pour préserver leur santé et l'environnement.
Et c'est vrai que le fait de sensibiliser celles qui achètent, c'est aussi leur dire, payez votre bazin peut-être un petit peu plus cher,
tout
mais en tout cas, vous savez que vous participez à améliorer la condition de ces teinturières.
Tout à fait, c'est un acte solidaire, c'est un acte responsable. Donc là, finalement, voilà, elles agissent aussi, elles-mêmes, en achetant un bazin, voilà, en achetant le bazin, elles savent qu'il y a une cause derrière, en fait. chez Nemalia en tout cas.
Alors je sais que vous souhaitez aussi industrialiser le bassin au Mali, qu'en est-il et qu'est-ce que c'est cette envie d'industrialisation ?
Alors en fait ça c'est vraiment sur le long terme.
Ouais.
Faut savoir que le Mali, on fait partie quand même du premier pays producteur de coton. Et l'ironie dans tout ça, c'est que le coton quitte notre continent pour aller être ben, industrialisé en Europe. Donc le bassin, il est fait en Europe et il retourne en Afrique pour être vendu en Afrique. Donc voilà, c'est vraiment important en fait. À un moment donné, il faut vraiment que voilà, faut vraiment qu'on puisse profiter de notre richesse. Et voilà, arrêter que tout sort de notre continent pour aller être industrialisé, revenir pour que nous, on achète en fait notre matière première finalement.
Alors, vous êtes aussi fondatrice de Ladies Business, une entreprise dans l'événementiel pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Vous nous en parlez ?
Oui, alors Ladies Business, justement, en fait, ce sont des salons que j'organise régulièrement. Bon, là, avec la Covid-19, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais c'est vraiment pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. C'est pour donner de la visibilité aux femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent aussi agrandir leur réseau. Voilà, c'est vraiment dans ce but-là, en fait. Ce sont des salons grandeur nature. Le dernier, c'était, bon, je ne sais plus quelle année, parce que voilà, ça fait un moment maintenant.
Ouais, avec la crise.
Voilà, mais voilà. En tout cas, le premier qu'on a organisé, on avait réuni plus de 1200 personnes, 1200 femmes qui sont venues avec 70 exposantes. Donc, ça leur permet de, voilà,
d'échanger, de réseauter.
Tout à fait, tout à fait.
Partager les expériences. Vous êtes aussi présidente de l'association Femmes d'Afrique, Femmes d'Avenir, qui a pour but d'accompagner les femmes à la création d'entreprises.
Oui, en fait, Femmes d'Afrique, Femmes d'Avenir, c'est vraiment une association, justement, où on met en place des ateliers. Pour accompagner les femmes à la création d'entreprises,
ouais.
Pour accompagner les femmes justement aussi à avoir ce mindset justement pour pouvoir entreprendre. Et on a aussi un côté humanitaire où on crée des écoles, création de puits, etc.
C'est génial.
Merci.
Vous avez encore d'autres activités parce que vous êtes fondatrice de Andiga. À Andiga, organisation de voyages destinée aux familles nombreuses et femmes de la diaspora africaine. En fait, vous permettez aux personnes qui le souhaitent de découvrir les joies du voyage. Ce sont des voyages organisés en fait sur mesure.
Tout à fait. En fait, Andiga, c'est justement, j'organise des voyages. Et cette idée, en fait, elle m'est venue de par ma propre expérience, issue d'une très grande famille. C'était impossible de voyager en famille.
Pourquoi ?
Ben, parce qu'on est, nombreux. Et,
la
facture, elle monte vite.
Ah, donc,
c'était juste impossible de voyager tous ensemble en famille, à part, aller en Afrique. En fait, pour moi, le voyage, c'est l'esprit d'ouverture, c'est apprendre, c'est, le savoir-vivre,
ouais.
C'est aussi respecter la culture. Donc pour moi, c'est vraiment important pour les enfants aussi, pour nos enfants, de leur faire découvrir autre que l'Afrique, de leur faire découvrir aussi d'autres horizons. Et j'organise aussi des voyages spécialement pour les femmes. Ça, c'est vraiment nous, en tant que femmes, en tant qu'épouses, en tant que mères, on puisse aussi partir loin de la famille.
C'est vrai qu'on s'oublie souvent.
On s'oublie très souvent. Donc vraiment, c'est vraiment pour prendre du temps pour soi, parce qu'une femme qui est heureuse, qui est épanouie, ben forcément, elle transmet aussi à la famille. Et le dernier, c'est je fais aussi des voyages business. Ça,
ouais.
C'est vraiment pour les femmes qui veulent entreprendre. Voilà, je les mets en contact avec les fournisseurs en Turquie, voilà, à Dubaï, etc. Et il y a aussi pour les mamans africaines.
Ouais.
Ça, c'est vraiment pour nos mamans. Parce que en fait, nos mamans, elles se sont sacrifiées. Mmh. Elles ont quitté leur pays. Elles sont venues ici à l'aventure. Elles se sont sacrifiées. Parfois, elles se lèvent à 5h, 6h du matin pour aller faire le ménage. Quand elles arrivent à la retraite, elles sont épuisées, tension, elles ont mal partout. Et finalement, on se rend compte qu'elles n'ont pas profité de la vie. Donc moi, j'ai fait plusieurs voyages avec les mamans en Espagne, en Belgique. Et quand je vois le sourire de ces mamans, quand je vois comment elles sont épanouies, en fait, elles redeviennent comme des enfants. Ben, franchement,
et qu'est-ce que vous leur faites
leur
faire
dis,
comme activité, par exemple ?
Pardon ?
Qu'est-ce qu'elles font comme
activité ? Par exemple, une anecdote, on est parti en Espagne et on est parti à la plage. Et la maman, quand elle est rentrée, son fils lui a dit « Alors, l'Espagne, ça y est, t'es parti à l'Espagne, maintenant t'es content ?» Et la maman, elle a dit « Oui, mon fils. » Elle m'a dit « Depuis 1900, je ne sais plus combien, je suis en France, je n'ai jamais vu la plage de mes yeux. » Elle m'a dit, je n'ai jamais vu la plage. Je voyais que à la télé. Et aujourd'hui, j'ai pu voir la plage, j'ai pu toucher, j'ai pu nager. Alors oui, mon fils, ce voyage en Espagne, ça a été vraiment été une révélation. Ça a vraiment été un bien pour moi. Et là, son fils, il a vraiment été ému aussi. Et pour moi, c'est une manière de dire merci à nos mamans, parce que je pense qu'on le fait pas assez. C'est vraiment une manière de leur dire merci pour tous les sacrifices, parce que si aujourd'hui nous sommes les femmes et les hommes d'aujourd'hui, c'est grâce en fait à ces mamans africaines qui se sont battues et qui se battent encore.
Absolument. Il y a beaucoup de demandes hein, pour les mamans ou pas ?
Énormément.
C'est vrai ?
Énormément. Ah oui, oui.
Et là... en fait, c'est les enfants en fait qui
ah non, mais ce sont elles-mêmes hein, maintenant. Elles-mêmes. Attention, elles rigolent plus. Hein. Elles disent à leurs enfants de payer et puis elles viennent. Hein. Et justement, j'ai appelé Ondiga. Ondiga, je suis malienne d'ethnie soninké. Ondiga, ça veut dire allons-y, ça veut dire partons. Et en fait, c'est venu tout naturellement parce qu'à chaque fois que je voyage, les mamans, je vous dis, elles deviennent comme des enfants. Donc, je fais que de dire Ondiga, Ondiga, on y va. Ça veut dire on y va, allons-y, c'est bon. À chaque fois, on est en retard, etc. Et c'est comme ça que j'ai appelé tout naturellement Ondiga.
Il y a l'autre entreprise aussi, celle de maman. Vous êtes maman de 4 enfants, vous êtes mariée. Alors, c'est quoi, comment on fait en fait pour allier toutes ces casquettes, les engagements, les entreprises, les activités et la famille ?
La famille est en priorité. Ouais. La famille est en priorité. Et tout à l'heure, je parlais avec Sekou, il m'a dit que voilà, les entreprises, c'est les filiales, c'est exactement ça. C'est ma famille d'abord et tout le reste, toutes les entreprises, ce sont les filiales, entre parenthèses. Et comment je fais ? Je planifie en fait, je planifie tout dès la veille. Voilà, ma journée, elle est organisée. Et voilà, ma famille, c'est mon moteur, c'est ma source, mon pourquoi, ce sont mes enfants. Et voilà, hein, c'est vraiment une organisation. Mais quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, en fait, on le voit pas comme un travail. Mais pour moi, c'est un plaisir. Tous les jours, je mangeaille. Tous les jours, voilà, je savoure ce que je fais.
Et vous trouvez de l'aide au sein de la famille, par exemple le mari, les enfants?
Oui, mon mari, c'est mon premier allié. C'est voilà, j'ai sa bénédiction dans tout ce que je fais. C'est mon premier allié et heureusement parce que c'est mon livreur, c'est lui qui va gérer les enfants aussi parfois quand je peux pas. Ouais. Mes sœurs, elles m'aident énormément. Par exemple, là, ça va bientôt être l'Aïd. Je vais beaucoup les solliciter par rapport à Némalia parce que on a des très très fortes demandes. Ouais. Ma maman, enfin voilà, vraiment ma famille, c'est mon premier allié.
Et vous nous racontez un peu votre parcours. Vous êtes née où en France ?
Je suis née en France.
D'accord. Vous nous racontez un peu de votre parcours en quelques mots et puis nous dire un peu quelles ont été les valeurs qui vous ont été transmises.
Alors, mon papa, il a toujours voulu être... il a fait du commerce. Il a fait du commerce et après, il est venu à l'aventure justement pour nous. Et c'est vrai que j'aime énormément parler de commerce avec mon père parce qu'il a fait la Côte d'Ivoire, il a fait le Sénégal, ouais, etc. Ouais. Et c'est vraiment une source d'inspiration. Mon père, c'est vraiment l'homme qui s'est sacrifié, comme beaucoup de papas africains, qui s'est sacrifié, qui a charbonné et qui a fait aussi de moi la femme que je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'ai eu une enfance où j'ai manqué de rien. Finalement, parce que avant, on se contentait de ce qu'on avait et on était très, très, très content de ce qu'on avait. Donc voilà, j'ai manqué de rien. J'ai eu une enfance épanouie. Je me suis mariée très tôt, à l'âge de 16 ans.
Ouais.
Voilà. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Dieu merci. Mes enfants, c'est ma source, vraiment ma source de motivation. Et voilà, franchement, je.
Et c'est ça les valeurs que vous leur transmettez à vos enfants ?
Oui. Mais en fait, mes enfants, c'est... j'ai mon fils qui va avoir 18 ans. Et justement, par rapport à mes enfants, je leur transmets énormément de choses. Je les influence indirectement et directement. Indirectement dans le sens où, en fait, avec toutes ces casquettes entrepreneuriales, finalement, je les conditionne à être des leaders.
Ouais.
Je les conditionne à être des leaders. Je les conditionne justement à avoir des objectifs et à avoir ce mindset. C'est vraiment important. Aujourd'hui aussi, c'est le message que je fais passer aux femmes. C'est pour ça que j'ai une marque personnelle qui s'appelle Camara Lidiatou, où j'accompagne justement les femmes à vivre pleinement. Parce qu'une femme qui est épanouie, une femme qui a le leadership, une femme qui est bien dans ses baskets et qui a des objectifs, qui met des plans en place, impacte automatiquement ses enfants. Aujourd'hui, moi, avec mon parcours, j'impacte en fait mes enfants. J'ai mon fils justement qui va avoir 18 ans. Il a envie d'être entrepreneur. Il a envie d'être entrepreneur. Je lui ai pas dit directement, il faut que tu sois entrepreneur. Non. Mais en fait, quand il voit sa maman, en fait, justement, avec toutes les actions que je fais, avec les femmes que j'impacte, ben lui aussi, ça lui donne ce goût-là d'être leader et d'être entrepreneur. Et lui, forcément, impactera aussi ses petits frères.
Alors, où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet concernant Némalia, par exemple, si on veut en savoir un petit peu plus, commander son bazar de la fête qui arrive, comment on fait?
Alors, je suis disponible sur les réseaux sociaux. Ma page Facebook, c'est Némalia. Mon Instagram, Némalia. Il y aura le site Internet. Là, en fait, il y a une refonte du site Internet parce qu'il y aura une gamme cosmétique qui va arriver très prochainement.
D'accord.
Donc voilà, je serai disponible aussi sur www.némalia.com.
Il y a Lady Business et Ondiga, si on veut faire voyager sa maman.
Alors, Ondiga, le site internet, c'est www.ondiga.com. Et Lady Zen Business, pour le moment, c'est uniquement sur Facebook.
Très bien. Donc, on vous retrouve sur les réseaux si on veut en savoir un petit peu plus, si on veut être coaché, si on veut être accompagné, si on veut poser une question. Sekou Sissoko, avant de réentendre Lydia Toukamara pour conclure dans un instant, qu'est-ce que tu as envie de dire?
J'ai envie de dire waouh. Moi, je sais que je gère quelques structures, mais elle en gère 4, plus sa famille, donc 5. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle fait pour s'en sortir. C'est quelque chose de vraiment difficile, déjà, de réussir à tenir une entreprise, mais tenir autant d'entreprises et être aussi, disons, organisé, et en plus de cela, faire mettre en place des actions humanitaires pour les femmes, pour la santé des femmes, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui vendent du bazin, qui en font un commerce lucratif, mais très peu voient l'aspect santé, etc., et environnemental. Et je pense que même certains le savent, mais je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent, mais ils ferment les yeux. Et toi, tu as décidé de voir ça. Et au-delà de l'aspect économique, de l'aspect entrepreneurial, etc., tu as décidé de militer pour. C'est-à-dire que tu as mis entre parenthèses ton profil et travailler pour ces femmes-là, quoi, qui, je pense, au début devaient être assez réticents par rapport à ça, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait dans mon business? Elle est en train de me dire d'arrêter de travailler. Comment je vais manger? Et toi, tu es arrivé, tu as réussi à leur expliquer encore et encore et encore pour que ça rentre. Donc, vraiment, félicitations à toi par rapport à ça. Et en cette journée du droit de la femme, je pense que tu es une ambassadrice.
Absolument.
Vraiment du mouvement des femmes, quoi. Des femmes qui font, pas qui disent, mais qui font à travers tout ce que tu fais. Tout simplement. Donc, merci beaucoup pour ce que tu
merci.
Fais.
Merci.
Je t'en prie.
Et on rappelle que tu continues d'accompagner les entrepreneurs.
Oui, exactement. Avec TBP Entrepreneurs, nous accompagnons les entrepreneurs dans les différentes phases de création et de développement de leur entreprise, que ce soit l'aspect études de marché, business plan ou promotion d'entreprise. Il faut savoir que sur l'horizon 3 ans, des entreprises qui sont créées, 70% disparaissent tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait d'études de marché. Donc tout simplement, c'est un sujet qui nous touche, et nous mettons à profit notre expertise pour accompagner ces entrepreneurs-là dans ces différents aspects, tout simplement. Donc
voilà. Merci beaucoup. Comment on va conclure, Lydia Toukamara, parce qu'on a beaucoup de choses.
Là, actuellement, en fait, on travaille sur un très, très, très gros projet avec mes collaboratrices, la Magnologie.
Ouais.
Comme j'ai dit, en fait, la femme, c'est le noyau de l'humanité. Je pense qu'une femme qui a confiance en elle, une femme qui a de l'estime, une femme qui est leader, une femme qui est épanouie en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, peut faire avancer une société tout entière. Donc en fait, le message que je voudrais faire passer, c'est toutes ces femmes, à toutes les femmes partout dans le monde, restez focus et soyez épanouies. Prenez vraiment, vivez votre vie comme vous voulez la vivre. Soyons leaders. On peut faire changer les choses, main dans la main. Aujourd'hui, ce qui nous manque, en tout cas dans notre communauté, c'est ça, c'est... On parle beaucoup de solidarité, etc., qu'il y a un manque de solidarité, etc. Mais en tout cas, nous, les femmes, on a décidé d'être solidaires, de se donner la main. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de constater et il faut mettre des actions en place, il faut agir. En tout cas, il y a un très gros projet d'envergure qui va avoir le jour très prochainement. Et je pense que hommes et femmes, en tout cas, vous êtes les bienvenus pour que ce projet puisse avancer. Il en va de l'avenir, en tout cas, de nos enfants. Parce qu'une femme, justement, qui est bien dans ses baskets, impacte forcément la génération future.
Merci, on en profite pour saluer toutes les manuaux du groupe.
J'y suis, tout à fait. Merci. La magnologie, beaucoup. Exactement.
Merci beaucoup d'être venu à Lidiato et à Camara. On souhaite longue vie à toutes vos activités à Némalia. Donc n'hésitez pas sur Internet pour en savoir un petit peu plus sur les différentes propositions d'Alidiato Camara. Merci d'être venu.
Merci
on vous salue,
beaucoup,
Aïssa.
Merci
famille,
pour l'invitation.
À bientôt sur l'antenne d'Africa Radio. Salut, c'est quoi ? On se retrouve lundi prochain.
À lundi prochain.
Allez.
Ciao.